Code philosophie de la nature de Père Marie-Dominique Philippe, le 18 novembre 1999 à Saint-Gérard.
Alors je lis d'abord quelques objections, quelques questions. Ma question est platonicienne. Donc, il faut convertir un platonicien. Alors, mais je vous la pose quand même, afin que vous m'aidiez à voir plus clair. On est tous un peu platoniciens, n'est-ce pas ? C'est pas mauvais de l'être un peu. Ce qu'il faut, c'est voir qu'on est platonicien. Dans le dernier cours, vous avez induit les principes de la nature à partir du mouvement, à partir de l'indétermination du monde physique. Comment peut-on parler de science du monde physique qui change tout le temps ? Oui, mais il change d'une façon qui est intelligente. Parce qu'il a été pensé par quelqu'un. Il ne faut pas l'oublier. Le monde physique ne vient pas au hasard. Alors, c'est très vrai que c'est une science limitée. C'est pour ça qu'elle dépend tellement de l'expérimentation, la science. Et la philosophie, de fait, découvre le monde physique en cherchant dans le monde physique ses principes. Et il reconnaît que dans le monde physique, le principe cause matérielle et capitale, essentielle. Alors, voyez ça qui est très curieux. La cause matérielle, toute seule, ne peut pas être atteinte par la science. Elle est source des limites de la science. Ça, oui. Mais la cause matérielle est toujours relative à la cause formelle. La science, l'intelligibilité du monde physique vient de la cause formelle. Mais la cause matérielle exprime ce qu'il y a de propre au monde physique. Et justement, le monde physique est un monde qui est très indéterminé. C'est pour ça qu'il y a le mouvement constamment. Parce que ça bouge toujours. Mais il y a quelque chose de déterminé dans le monde physique. Et donc, le point de vue du mouvement physique n'est pas le hasard. Le hasard n'est pas déterminable, il est indéterminable. Il y aura toujours dans le monde physique quelque chose d'indéterminable, ce qui limite l'intelligibilité du monde physique. Et ce qui le rend, on dit, au fond, comme, comprenez bien ce que je veux dire, hein, l'adversaire de la science. C'est ça qui est très curieux dans le monde physique, c'est qu'il appelle notre intelligence et en même temps, en se livrant par la science, par la philosophie, on voit qu'il y a dans le monde physique radicalement un principe d'indétermination. Mais ce principe d'indétermination n'est jamais seul. Il est découvert avec le principe formel. Mais c'est le principe d'indétermination qui caractérise le monde physique. Et demande au monde physique d'être achevé, perfectionné, par l'art. Et c'est pour ça que si facilement, l'art prend le pas sur la science dans le monde physique. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire qu'il y ait la sagesse philosophique qui n'est pas au monde physique. Et la sagesse philosophique n'existera qu'en dépassement du monde physique. Ignorer que le monde physique, il n'y aurait pas de sagesse. Alors, il n'y aurait qu'une science extrêmement pauvre qui retire quelques principes, mais qui est extrêmement pauvre et qui montre que notre connaissance physique a fondamentalement une indétermination, donc une négation à la science. Mais du fait même que la philosophie découvre un principe matériel, il y a une connaissance philosophique propre. Et elle vient de la cause matérielle. La cause formelle, elle est présente, mais la cause formelle est beaucoup moins cause formelle que pour la philosophie de l'art. La cause formelle en physique, elle est relative à la matière. Il y a une relation mutuelle entre les deux. Tandis que dans la philosophie de l'art, la cause formelle est exemplaire. Et elle est d'abord dans l'esprit. La matière n'est pas artistique hein, par elle-même, pas du tout. Elle est plutôt destructive de l'art. Elle ronge l'art. Elle dissout. Pouvez-vous revenir sur l'interrogation qui permet de découvrir la phusis, matière et forme? Quelle est-elle précisément? Il me semble que face au devenir, on a toujours tendance à interroger et à chercher un principe du côté de la cause efficiente, en premier lieu. Tout à fait. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et ça, vous voyez, c'est le point de vue artistique qui domine. Et c'est le point de vue vital. Dans la cause, dans le vivant, la cause efficiente prend un rôle très important. Mais la cause matérielle restera aussi très forte et très importante. Comment, face au devenir physique, l'interrogation oriente le philosophe vers la découverte d'un principe d'abord au niveau de la cause matérielle? Parce que justement, il s'agit d'une réalité qui est en devenir. Qu'est-ce qui prime dans une réalité en devenir? C'est qu'elle peut changer. C'est qu'elle n'a pas de stabilité. C'est ça, une réalité physique. Un devenir physique. Ce devenir physique est relatif et tout ce qui provient de lui est relatif. Alors qu'est-ce qui est premier dans une réalité relative? C'est le sujet, parce que la réalité, le fondement de la réalité, le fondement de la relation, parce que une réalité qui n'est que relative a comme fondement la relation. Et une relation qui change toujours. Donc l'indétermination est première. Qu'est-ce qui peut changer? C'est ce qui est indéterminé. Et c'est dans ce sens-là que la causalité matérielle est première. Notre monde physique peut changer. Mais là, le savant et le philosophe sont d'accord. Le monde physique peut changer. Et le monde physique change. Alors, Quelle est l'interrogation ? Sophie, quelle est l'intelligibilité ? Quel est l'être du devenir ? Qu'est-ce qui est dans le devenir ? Qu'est-ce qui est dans le devenir ? Dans le devenir, qu'est-ce qui est premier ? C'est le non-être ? Autrement, ce ne serait pas le devenir. C'est le non-être qui est donné en premier lieu. Le devenir, c'est ce qui change. Qu'est-ce qui est capable de changer dans le devenir ? Il est lui-même capable de changer, puisqu'il est le devenir. Donc tout change. S'il est capable de changer, ça prouve que il est radicalement matière, en puissance, en pure puissance. Alors, quand vous vous interrogez de savoir quel est l'être du devenir, parce que c'est ça la question qui se pose, quel est l'être du devenir ? Bon, vous comparez, je vous ai dit, nous comparons le devenir artistique et le devenir physique. Nous comparons le devenir physique et le devenir du vivant. C'est par cette comparaison que je vois que l'être du monde physique est un être qui explique que ce monde physique est toujours en changement. Si ce devenir physique est toujours en changement, son être est donc premièrement une indétermination, un non-être, ce qui est en puissance, ce qui est matière. C'est ça ce qui est premier. Quel est l'être de ce devenir que j'expérimente ? Quel est son être ? Ce n'est pas la détermination qui est première, puisqu'il est devenir. Si c'était la détermination, ce ne serait pas le devenir. La détermination n'explique pas le devenir. Sauf au point de vue art. Et cette détermination impliquant une détermination est premièrement dans l'idéa. Et ça vous fait bien comprendre comment, dans l'art, la forme est première, l'idée est première, et ne pas la matière. Quand vous voyez une très belle statue, vous dites « quelle belle statue, c'est merveilleux !» Vous ne dites pas tout de suite « ah, c'est de la matière, c'est du bronze, c'est du granit, non ?» C'est du statut, et vous nommez. C'est un petit chien. C'est un petit chat. C'est le visage d'un homme. Dans le granit. Donc, au point de vue de la signification du devenir, c'est sa détermination. Mais au point de vue de l'être du devenir, c'est le non-être. C'est le non-déterminé. C'est la puissance. La signification du devenir ne peut pas être la matière, puisque la matière, par définition, c'est ce qui détruit la détermination. Ce qui l'enveloppe et la possède. Donc, si vous posez la question au point de vue philosophique, quel est l'être de ce devenir ? Quel est son être ? Alors, vous distinguerez tout de suite, il est et il n'est pas. Tout devenir est et n'est pas, puisqu'il change. Et donc, je saisis tout de suite la détermination et la détermination. La forme et la matière. Et ensuite, je me dis, qu'est-ce qui caractérise l'être physique? Parmi ces deux principes, c'est le principe matériel. Parce que ce qui caractérise le devenir, c'est justement qu'il change. N'allez pas me dire ce qui caractérise le devenir, c'est ce qui ne change pas. Non, ça serait, plus du devenir. Donc vous voyez, deux saisies successives, une inductive et l'autre préciser à l'intérieur de l'induction les deux aspects corrélatifs, matière et forme. Mais vous n'avez pas une seule induction. Vous avez une induction, mais une induction qui demande encore une précision. Parce qu'au niveau des principes, il faut préciser quel principe. Principe. Qui dit principe dit d'être premier. Or, quand vous prenez, vous dites, il est deux. Ah, mais qu'est-ce qui est premier? Est-ce la cause matérielle, c'est la cause formelle? Pour Platon, puisqu'il s'agit d'un platonicien, n'est-ce pas? Pour Platon, c'est la détermination, c'est la forme. Parce que Platon conçoit le monde physique comme le monde artificiel. Et pas l'inverse. Et pour Platon, c'est donc la détermination qui prime. Pour nous, non. Alors, il me semble que face à un devenir, on a toujours tendance à interroger et à chercher un principe de côté, du côté de la cause efficient. On a toujours la tendance de voir d'où ça vient. Parce que le devenir même du monde physique est double. Mais d'où ça vient n'expliquera rien à ce qu'est la matière. Troisième recherche. Mon père, pouvez-vous préciser l'analogie que vous employez en disant « la matière se venge » ? Comment une vengeance peut-elle venir d'une réalité non personnelle ? Je suis d'accord avec vous. C'est métaphorique. Et vous comprenez très bien ce que c'est. Parce que justement, le propre de la matière, c'est de capter pour elle. Elle capte pour elle. Et elle individualise par la quantité. Et elle individualise forcément. L'individu, c'est ce qui est déterminé pour soi et ce qui est séparé des autres. L'emprise de la cause matérielle, c'est toujours une emprise captative. Et elle vous saisit et elle vous tient dans sa main. Alors c'est sûr, c'est métaphorique, je suis tout à fait d'accord, mais c'est pour exprimer quelque chose qui est très difficile d'exprimer autrement. Autrement dira, elle individualise. Voilà. Alors, si vous êtes artiste, si vous êtes savant, vous n'aimez pas cette individuation. Parce que ça fait uniquement regarder la chose. C'est juste l'inverse de l'universel. Vous faites tomber l'individuation pour universaliser et pour saisir. Pour saisir la forme comme forme, on la sépare de la matière. Donc on la sépare de l'individuation, pour saisir la forme comme temps. La forme n'est parfaitement forme que quand elle est séparée de la matière. Alors tout de suite, elle a un caractère universel. Et ce caractère universel caractérise la forme qui réclame être une forme qui n'est pas du domaine. Et je crois que c'est bien cela que nous ressentons très fort. Et on ressent très fort que la jalousie matérialise terriblement. C'est une force qui nous fait aller vers le bas, qui nous capte vers le bas toujours. Vous voyez, c'est très significatif, hein. Cette fameuse parabole où les démons supplient Jésus d'aller dans le troupeau de petits cochons et ne pas quitter. Ça montre bien que quand il n'y a plus de finalité, tout de suite on matérialise. La matière vient au secours de la femme. Il y a quelque chose, vous voyez, de propre à la causalité matérielle, c'est de prendre pour soi. Alors, il y a quelque chose, c'est vrai, qui est plus fort du côté de la femme que du côté de l'homme. L'homme, il platonise. Il platonise tout le temps, l'homme. Tandis que la femme a beaucoup plus de peine de platoniser. Vous savez bien, c'est ce que dit Platon, justement. Et ça fait tout de suite comprendre, ça. Platon dit, quand un homme se conduit mal, il se réincarne dans une femme. Quand une femme se conduit mal, elle se réincarne dans un animal. Je disais ça toujours aux étudiantes qui aimaient Platon comme si Platon disait la vérité. Alors après ça, est-ce que vous croyez que Platon dit encore la vérité? Alors tout de suite elle dit, ah non, ah bon alors, voyez, vous êtes d'accord, nous sommes d'accord, Platon ne dit pas la vérité. Et c'est vrai, parce que Platon exalte la cause formelle et dénigre la cause matérielle. Et c'est facile de dénigrer la cause matérielle. Alors que la cause matérielle, Aristote dit que la cause matérielle a quelque chose de maternel. Et la psychologie a quelque chose de maternel. Parce qu'elle voit toujours la cause matérielle. Ça, c'est très net. Alors, ça ne doit pas... On doit comprendre que qu'est-ce qui nous fait aller au-delà du point de vue de la psychologie, c'est la finalité. La finalité permet... Vous voyez, la finalité permet le dépassement. Pour ne pas rester dans quelque chose de trop formel. Alors c'est pour ça qu'elle a tendance, elle a toujours tendance, la cause matérielle à accaparer et la cause formelle à se séparer. Alors des deux côtés, c'est métaphorique, mais ça nous aide à comprendre ce qu'est la cause matérielle pour nous, ce qu'est la cause formelle. Alors, maintenant, continuons. L'induction en philosophie de la nature est donc une induction particulièrement difficile. Parce que on induit la cause matérielle avec la cause formelle. On induit les deux. Et on induit les deux en voyant tout de suite l'aspect fondamental de la cause matérielle. et la cause propre de la cause matérielle pour exprimer le mouvement, le devenir. Je peux donc préciser là que le mouvement est ce qui me permet, par le fait même, de découvrir ce qu'il y a de propre dans le monde physique. Le monde physique est un monde de devenir, un monde de mouvement. Et ce devenir réapparaîtra partout où il y a matière. Et ce qu'il y a de très caractéristique, très curieux, alors chez l'homme, hein, c'est que le corps va être substance, ou plus exactement, va être un principe saisi, comme un principe qui domine toujours. Le corps va être bien l'élément matériel, la cause matérielle de toute vision anthropomorphique de l'homme, de toute vision sur le point de vue propre de l'homme. Ce n'est pas la forme, c'est la matière et c'est la finalité, tout de suite. Dès qu'il y a matière, il faut tout de suite faire appel à la finalité pour ne pas rester enfoncé dans la matière. Le devenir a-t-il une finalité? Alors là, vous voyez, on va tout de suite poser la question très délicate, surtout pour des esprits scientifiques ou des esprits platoniciens. C'est la finalité. Platon, ainsi que la science mathématique, ne peuvent rien dire de la finalité. Les mathématiques, parce qu'elles restent sur la relation, et la relation est ce qui, au fond, ramène la finalité à la forme. Et par le fait même cache la finalité. Alors je reviens au devenir pour essayer de comprendre ce que c'est que le devenir au plan philosophique. Donc je vois forme et matière, je vois l'ordre entre les deux, c'est que la matière est ordonnée à la forme et la forme détermine ce qu'elle peut déterminer dans la matière. Mais elle ne détermine jamais la matière radicalement. Donc nous n'arriverons jamais à faire que quelque chose de matériel puisse ne pas se corrompre. Et la corruption, c'est le primat de la matière chez le vivant. Et dans un être de vie biologique, la matière est toujours présente. Jusqu'au bout, la matière aura la joie de proclamer qu'elle est fondamentale et que rien ne peut la supprimer. Toutes ces poèmes sur la mort, tous ces bas-reliefs sur la mort montrent le triomphe de la mort, le triomphe de la matière, le triomphe de la corruption. Je crois que c'est très important de bien voir ça, puisque le monde, la philosophie de la nature nous fait découvrir ce qu'est la fusis matière. Donc c'est très important en philosophie de découvrir l'importance il faut comprendre que la matière a en elle-même cette force de tout ramener à elle. Alors c'est évident, là, c'est métaphorique. Et en même temps, c'est pas métaphorique, hein. C'est réel. L'indétermination de la matière, si l'homme n'est pas tout le temps là pour l'exalter, la transformer par l'art, le poids de la matière est tellement fort qu'il sera victorieux. Et alors qu'il y a normalement le mouvement naturel qui est la forme. Mais ce serait très intéressant ça comme recherche philosophique. Vous voyez, Aristote, dans le livre de physique montre que un monde purement matériel ne serait pas parfaitement intelligible. Il faut qu'il y ait un premier non dialectique. Et ceci montre qu'un monde purement matériel, s'il ne serait pas purement, ne pourrait pas exister. C'est pour ça qu'il est nécessaire de poser un premier être immobile. Donc un premier être qui est victorieux vis-à-vis de la matière, il est immobile. Il ne connaît plus la corruptibilité. C'est nécessaire. L'existence même du devenir l'affirme. Puisque il existe dans le devenir. L'être est dans le devenir. Si l'être est dans le devenir, ça prouve qu'il y a un premier être. Et un premier être immobile. Parce que le devenir n'est jamais premier. La matière n'est jamais première dans l'ordre de l'être. Elle est toujours seconde. Si elle est toujours seconde, il ne peut pas y avoir un premier dans l'ordre matériel. Et dans l'ordre matériel et dans l'ordre du devenir, il y a nécessairement un premier être immobile. L'exister de la mort montre qu'il y a une réalité qui ne meurt pas. Donc, immobile. Pas éternel, mais qui ne meurt pas, qui est au-delà. Et ça, c'est quand même très important à bien saisir. Toute la physique d'Aristote est faite pour ça. Alors on dit, pour prouver l'existence de Dieu, c'est, faisons attention, il y a un abîme. Il y a un abîme entre la preuve qu'Aristote donne dans son livre Physique, chapitre livre 7 et 8, en montrant que le monde physique existant prouve qu'il y a un monde immobile, premier. Parce que le monde physique existant n'est pas premier et ne peut pas être premier. Donc il dépend d'un autre. C'est la grandeur de la cause matérielle. C'est qu'elle crie vers un monde libéré de la matière. Vers un monde qui ne connaisse pas la corruption. Vers un monde qui soit existant sans la matière. et ce monde physique qui montre l'existence . Il y a là quelque chose de très grand à saisir. C'est que la matière, dans sa petitesse, dans sa non-détermination, est tout entière tournée vers la détermination. Et elle reconnaît que la détermination est première, qu'elle n'existe qu'en fonction, que parce qu'elle est déterminée. Qu'elle ne peut pas exister par elle-même. Elle existe par un autre. Et cet autre est premier. Donc, il est toujours victorieux. Mais il peut se faire que la matière, par moment, voyez, en tant qu'elle est source de devenir, soit victorieuse de la détermination. De quelque chose qui est, et qui est, de toute façon. Montrer que la matière n'est pas première montre que la matière est finalisée. Elle est finalisée puisqu'elle a un ordre vers la forme. Et la finalité propre du monde physique, donc de la cause matérielle, qui domine, c'est la forme. C'est ça qui la finalise. Il y a un ordre naturel entre la matière et la forme. L'aspect de la monstruosité qu'on voit surtout chez le vivant. Dans le monde physique, c'est très curieux de voir la monstruosité. Mais ça existe aussi. C'est justement un monde replié sur la matière, où la détermination n'est plus victorieuse. On verra ça la fois prochaine, avec la finalité. C'est le hasard.